Le Seigneur lui a tracé. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » En quoi est-ce que ses voisins étaient concernés? C'est que quand il cherchait sa brebis, il a dû demander à ses voisins, « N'avez-vous pas vu ma brebis ?» Et ses voisins lui ont dit, « On n'a pas vu. » Peut-être des confrères ou des collègues à lui, des bergers, et leur demandant, « Vous n'avez pas vu ma brebis à moi? J'ai une brebis que j'ai perdue. » Ils ont dit, « Non, on n'a pas trouvé. On ne l'a pas vue. » Alors, il se met à la chercher, il la cherche, et il finit par la trouver. Et il est joyeux, et il revient avec la brebis, et il dit à ses voisins, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » La seule personne qui peut se réjouir du fait qu'on retrouve une brebis perdue, ça ne peut être qu'un berger. Celui qui n'est pas un berger, il ne se sent pas concerné. Ce sont ses brebis à lui. Si vous n'êtes pas berger, vous avez dit ça, ce sont ses brebis, il n'a qu'à bien les surveiller. Mais un berger connaît la valeur d'une brebis. Et Jésus connaît la valeur des siens, de ses enfants. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Notez que quand il retrouve la brebis, il ne la gronde pas. Au contraire, il éclate de joie. Il prend la brebis, il la met sur ses épaules. Il ne la gronde pas, il ne la tape pas, mais il est heureux de la retrouver. Et l'Éternel est comme cela avec nous. Lorsque nous nous écartons des chemins battus, lorsque nous allons sur le côté, quand il vient nous reprendre, il ne nous gronde pas. Au contraire, il nous remet sur le chemin battu, donc sur le sentier battu, exactement comme le fils prodigue, quand il est rentré, il a commencé à pleurnicher, « Papa, excuse-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pardonne-moi, considère-moi comme un de tes serviteurs. » Non, pour le papa, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Et c'est là où vous réalisez dans votre méditation en tant que berger que le Dieu qui vous conduit est un Dieu miséricordieux. Vous pensez à tous les maux que vous avez faits. Vous pensez à toutes les fois où vous vous êtes écarté. À toutes les fois où vous êtes tombé, mais vous sentez que Dieu vous aime toujours. Ça vous pousse dans la méditation de voir qui Dieu est. Et à ce moment-là, vous ne pouvez que éclater en louange, éclater de joie, tout simplement parce que Dieu vous a pris dans ses bras, n'est-ce pas, et il vous a ramené au bercail. Donc, les brebis sont là, ils ne paniquent pas, même s'il y a des loups qui rôdent autour, des lions qui rôdent autour, ils ne paniquent pas, elles savent que le berger est là. Une brebis peut risquer de tomber dans un ravin à côté, mais le berger veille. Et peut-être que les brebis n'ont pas vu le ravin, mais le berger a vu le ravin. Oh. Et à partir de toutes ces réflexions, il a dû regarder vers les cieux et se dire, l'Éternel est mon berger. Voir combien de fois il a été ramené sur le droit chemin. Voir combien de fois Dieu l'a sauvé de certains dangers. Voir combien de fois Dieu l'a sauvé, peut-être, vous traversiez la route, la rue, vous étiez distrait, n'est-ce pas? Quelque chose vous fait regarder à la dernière seconde du côté où le danger peut venir. Vous dites, oh, grâce à Dieu. Combien de fois on n'a pas eu de requête, de demande de remerciement ici? Parce que Dieu nous a préservés. Et c'est ainsi que lui s'est retrouvé, justement, en y pensant. Et parfois, quand il avait difficile à trouver un pâturage qui qui pouvait convenir, eh ben, c'était pour lui, c'était gloire à Dieu, que Dieu avait pourvu. Qu'est-ce qui fait que David pouvait penser qu'il ne manquera de rien parce que ses brebis ne manquaient jamais de rien. Et lui-même, David, faisait de sorte que ses brebis ne manquent de rien. Et qu'il pouvait penser, que peut-il nous manquer si le Seigneur est près de nous, s'il veille sur nous, lui qui, par sa parole, peut amener toutes choses à l'existence. Lui qui nous dit, ne vous inquiétez pas de ce qui se passera demain. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Ces brebis, David pouvait penser, ne manquent de rien parce que je les aime. Je les aime tellement que je leur cherche toujours ce qui leur convient. Et c'est là où, comme le frère chantait ici, nous pouvons réaliser que le Seigneur est toujours Jéhovah Jiré. Genèse 22. Celui qui s'inquiète de cela, il n'a pas encore vraiment réalisé ce que l'Éternel est réellement. Tous ces noms sont là, non pas pour juste être chantés, mais ce sont des noms véritables qui manifestent réellement ce que Dieu est. Dans Genèse 22, verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il est la source de toutes les provisions. Et avant même, Jésus nous dit dans Matthieu 5, vous savez, c'est un privilège que de savoir, que d'être chrétien, pardon. Vous savez ça? Je crois que c'est Frère Abraham qui dit, je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas chrétien. Oui. Il dit, Jésus dit que avant même que vous n'ouvriez votre bouche, le Père sait de quoi vous avez besoin. Vos besoins, il les connaît. Lorsqu'on s'inquiète, c'est qu'on a l'impression que le Père céleste ne connaît pas nos besoins. Mais il a appris dans le travail qu'il faisait, qu'on lui a confié par son papa en étant berger, il a compris ce que l'Éternel est réellement. Et vous savez, le travail que nous avons, généralement, dans le monde, on appelle ça des vocations. C'est-à-dire, quelqu'un qui devient médecin, il a vocation à être médecin, à soigner les gens. Et celui qui est avocat, il a vocation à défendre les gens. Il veut faire tel travail, il a cette vocation-là. C'est un appel au-dedans de lui qui fait que cette personne a envie de devenir... C'est un besoin, c'est une envie que Dieu met en lui, mais ce n'est jamais par hasard, parce que Dieu connaît notre vie avant même qu'elle n'ait commencé. Quand Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, Moïse est parti, n'est-ce pas? Il est parti là-bas au pays de... chez Séphora, au pays de Jéthro, n'est-ce pas? Moïse, quand il est parti là-bas, c'était tout à fait, chez Madian, c'était tout à fait dans le plan de Dieu. Il fallait d'abord que Moïse apprenne, n'est-ce pas, à conduire le peuple de Dieu. Et pour cela, il devait l'apprendre en conduisant un troupeau. Le troupeau, le peuple d'Israël est un peu, même le chrétien comme ça également. Le chrétien ressemble justement à ses brebis, un peu insouciant. Parce qu'il a, il a un père, le chrétien a un père qui se soucie de tout. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est comme cela que Dieu veut que nous soyons. Il ne veut pas que nous tracassions à cause de nos soucis. Nos soucis, c'est lui qui les porte. Pour ce qui est de notre manger, c'est son problème, c'est son affaire à lui. Vous savez, quand vous vous retrouvez devant des situations, certaines situations difficiles, vous me demandez comment vais-je passer au travers, mais un peu comme devant la mer Rouge, mais lorsque vous passez, après être passé, c'est là que vous réalisez combien Dieu est grand. Et sa méditation le mène à cela. Donc, il constate que Dieu est la source de toute provision et il a promis de pourvoir à chaque besoin selon les richesses, n'est-ce pas, de sa gloire, selon les richesses de ce qu'il a. Dans ce que je voulais, je ne l'ai pas lu, dans Matthieu 6, il le dit. Il dit au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Comme je crois que nous disions dimanche, c'est que un don, ça soit le don de guérison. Si Dieu vous l'a destiné, il vous le donnera. Dieu ne vous donnera pas le don parce que vous avez demander en priant, en faisant beaucoup de prières et que Dieu vous a donné le don, vous a fait le don. Non. Si c'est le cas, ce n'est plus un don, c'est une récompense. Vous voyez ? Dieu vous récompense d'avoir prié et ainsi de suite. Alors, ben, il vous accorde le don, il fera de sorte que vous puissiez appliquer ce don-là et que vous naissez avec ce don, vous puissiez, n'est-ce pas, prier. Vous allez prier, vous allez beaucoup prier parce que vous avez le don. Le don va provoquer que vous priez souvent. Le frère avait le don de prier pour les malades. Avant chaque réunion, avant qu'il ne se mette à prier pour les malades, il jeûnait. Parce qu'il avait ce don-là en lui. Et effectivement, ce n'est pas le frère qui a demandé à ce que Dieu lui fasse ce don. Mais Dieu le lui a fait par pure grâce. Chaque don de Dieu est une grâce. Vous ne le méritez pas. Parce que si ça va dans les mérites, alors il y en a qui seront désavantagés. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Bon, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Est-ce que vous croyez cela? Ça, c'est un énorme problème. Souvent, quand on se retrouve dans des difficultés, on s'imagine que Dieu ne connaît pas nos besoins. Et on prie, et on se lamente, et on pleurniche, et on gémit, et ceci et cela. Dieu connaît chacun de nos besoins. Et David avait cette conviction-là. Lorsqu'il vous affirme tout simplement, « Je ne manquerai de rien ». Demain, même s'il y a une sécheresse demain, Dieu reste le Dieu de la sécheresse. Dieu est capable de vous donner à boire pendant la sécheresse. Dieu est capable de faire fructifier vos greniers avant qu'il n'y ait une sécheresse. Dieu reste Dieu. Je ne manquerai pas de protection non plus. Parce que c'est lui qui est mon berger. Les brebis qui sont là ne se préoccupent pas du lion qui rôde. Les brebis qui étaient avec David ne se préoccupaient pas de l'ours qui venait. D'ailleurs, quand l'ours est venu, peut-être que les brebis ont juste bêlé un peu. Voyant l'ours, David est venu. Les brebis ont vu David prendre cet ours de ses mains et le déchirer avec ses mains. Ça a réconforté les brebis. Tout comme vous, lorsqu'un ours, un démon vient, vous pouvez voir si Dieu le met en fuite ou pas. Si vous voyez que Dieu le met en fuite, cela vous donne, n'est-ce pas? Cela vous donne de l'assurance dans votre marche. Et Dieu ne nous a pas laissés sans protection, n'est-ce pas? Dans Actes, chapitre 4. Verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'un ours s'en prend à vous, vous devez votre salut au nom de Jésus-Christ. Ça va? Et le nom de Jésus-Christ, peut-être beaucoup ne le réalisent pas. Dans Proverbe, il nous est dit ceci, que le nom de l'Éternel, n'est-ce pas? Proverbe 18. Verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour forte, ça veut dire qu'elle est imprenable. Il n'y a aucun ennemi qui peut venir et forcer ce tour, entrer dans cette tour. C'est une tour forte. Le juste s'y réfugie. C'est là que l'on trouve notre refuge et se trouve en sûreté. Vous savez, il y a des situations où votre argent, si vous en avez, ne vous protégera pas. Au contraire, beaucoup d'argent va vous attirer beaucoup de démons, beaucoup de brigands qui vont venir rôder autour de vous. Mais maintenant, si vous êtes en Christ, si vous êtes en Jésus-Christ, donc aucun démon, n'est-ce pas, n'essayera de venir forcer quoi que ce soit au nom du Seigneur. Lorsque vous êtes dans cette tour, vous êtes en sûreté, c'est la meilleure sécurité que vous pouvez avoir. Je ne manquerai pas de protection. Quand il parle de ne manquer de rien, il ne s'agit pas seulement que de nourriture. Il s'agit de nourriture, il s'agit de protection devant les ennemis. D'ailleurs, il en parle dans tout le psaume, n'est-ce pas? Il ne parle pas que de nourriture. Il parle de situations compliquées dans le psaume 23. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Ça, c'est la nourriture. Il me dirige près des eaux paisibles à boire. Il restaure mon âme. Si votre âme a été quelque peu entamée par certains coups de la vie, Dieu est celui qui la restaure. Si elle était abattue, Dieu la réconforte. Dieu lui redonne la force. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Il dit, il balaye toutes les situations dans lesquelles il peut passer. Et dans ces situations-là, il ne manquera de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il n'a pas peur des adversaires. Il ne manquera de rien. Si nous pouvons en arriver à cette méditation-là, mais nous marcherons toujours joyeux. Et il était tellement joyeux de constater ces choses que David a composé énormément de cantiques. Et celui qui est dans la joie, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il chante des cantiques. Quand David disait « Je suis joyeux quand on me dit », il savait de quoi il parlait. David chantait tout le temps. Il chantait souvent. Sauf quand sa joie du salut lui a été ôtée à cause de son péché. Mais ça lui a quand même donné la force de rechanter. Et pendant qu'il chante, il demande à Dieu, donne-moi la force. Redonne-moi, n'est-ce pas, la joie de mon salut. Et ça doit être la vie du chrétien. Le chrétien, quand il réalise que le nom de l'Éternel est une tour forte, rien ne peut lui arriver, ni la famine, ni la nudité, ni quoi que ce soit d'autre. Ayez confiance en ce Dieu-là qui vous conduit. De la même manière que les brebis avaient confiance en leur berger, de la même manière, nous devons avoir confiance en lui. Et David réalise, dit, l'Éternel est mon berger. C'est en fonction du fait que lui, il était le berger des brebis. Donc, il savait que Dieu le gardait, lui, même d'une meilleure manière, en tant qu'infiniment puissant, d'une meilleure manière, d'ailleurs, que lui-même, David, gardait les brebis. Et cela, bien sûr, ce qui le faisait chanter. Dieu, cette tour est suffisamment forte pour vous défendre, pour vous délivrer. Qu'importe la forme de l'ennemi, qu'importe l'ennemi, quel qu'il soit, l'ennemi peut être spirituel, il peut être physique, le nom de l'Éternel reste une tour forte. Ça va? Il est toujours Jéhovah Rapha. Si l'ennemi qui vous attaque est malade, David en arrivait à soigner ses brebis. Le berger est formé pour pouvoir soigner ses brebis. Il n'a pas besoin de vétérinaire. Ce n'est pas comme les éleveurs industriels aujourd'hui. Non, eux-mêmes, ils savent comment soigner leurs brebis. Lorsqu'il faut leur donner du miel, lorsqu'il faut leur donner quelque chose, une substance, ils s'y connaissent en plantes guérissantes, les bergers. Ce sont des gens de la nature. Il y en avait un du côté de Haas, là-bas, je ne sais pas s'il y est toujours. Et on l'avait une fois interviewé à la télévision, et il avait dit, lui n'appelait jamais les vétérinaires. Lui, il s'y connaissait en ses brebis. Oui, et je l'avais déjà vu, je l'ai vu quelques fois, mais maintenant je ne le vois plus. Quand les brebis ont un besoin de santé, ils s'en occupaient. Et David s'occupait de ses brebis et il les remettait sur pied. Amen. Et quand ça le dépassait, comme le lion ou l'ours le dépassait, qu'est-ce que David faisait? Il priait. C'est ce qu'il dit, c'est le témoignage qu'il donne ici à Saül. Il dit, d'abord il dit, j'ai terrassé l'ours, j'ai terrassé le lion, mais après il va avouer que c'est l'Éternel qui l'a fait. Et cela lui a donné de l'assurance devant Goliath. Vous voyez, puisqu'il dit dans 1 Samuel 17, au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur, il parle de lui, a terrassé le lion et l'ours et il en sera de Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de l'Éternel. Alors ici, il avoue au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, c'est l'Éternel qui l'a délivré. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et quand il va se retrouver en face du Philistin, il va lui dire ceci. D'abord, verset 43, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Écoute, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce nom-là est une tour forte du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Je crois que c'est l'histoire de Wesley, je ne sais plus, où il devait aller, je ne sais plus si c'était Wesley, où il devait aller en campagne quelque part, et son cheval, n'est-ce pas, puisqu'il voyageait à cheval à ce moment-là, son cheval a eu une patte cassée. Et il a prié pour le cheval, sa patte a été restaurée. Oui. Donc, ils n'avaient pas besoin de vétérinaire à cette époque-là. Quand la maladie de la langue bleue frappait le troupeau, il y avait l'Éternel pour venir les en délivrer. Aujourd'hui, ils font plus confiance, n'est-ce pas, en l'industrie, en ce qu'ils font aujourd'hui dans leurs choses, dans leurs histoires tout à fait industrielles. Mais il y a même la tendance à revenir à la nature. Il y a tendance à revenir à l'agriculture naturelle. Il y a la tendance à revenir à l'élevage naturel. Il y a une tendance à revenir à vivre naturellement. Parce que tout est dans la nature. Tout ce dont nous avons besoin pour être guéris, Dieu a créé cela. Vous savez, il n'y a aucune maladie, même pas le Covid, rien. Le Covid a surpris les gens. Mais ça n'a pas surpris Dieu. Donc, il reste toujours... D'ailleurs, il le dit dans pas mal de psaumes, l'Éternel est mon refuge. C'est là où il va se réfugier chaque fois lorsqu'il est dans le besoin. Amen. Maintenant, je ne sais pas si c'était un montage, mais je n'ai pas voulu mettre ça dans le groupe WhatsApp. Je ne sais pas si c'est parce que les réseaux sociaux... Mais Dieu peut faire cela. Les réseaux sociaux, je m'en méfie. Il y a ces incendies là-bas à Los Angeles. On a montré une maison qui est restée intacte. J'ai la vidéo qui est là, que quelqu'un m'a envoyée. Une villa qui est restée intacte, disant, c'est la villa d'un chrétien. Effectivement, Dieu peut le faire. Pendant que les pompiers terrestres vont essayer d'éteindre le feu qui s'abat sur les gens, un chrétien, il prie. Maintenant, il faut avoir la foi devant cet incendie-là, en arriver à prier, à dire comme David, cet incendie ne fera aucun mal. Oui, il faut avoir la foi. Et comme je vous l'ai dit, cet incendie est intervenu après une cérémonie blasphématoire qu'ils ont tenue là-bas à Los Angeles. 2 jours plus tard, l'incendie... On ne connaît toujours pas exactement la cause d'incendie. Jusqu'à hier, ce n'était pas encore éteint. Je ne sais pas s'ils ont éteint aujourd'hui. Mais Los Angeles est complètement ravagé. Mais pour Dieu, ça n'a aucun problème. Vous savez, le feu, une forêt, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, c'était en Australie, une région qui était forestière, une région forestière là, qui était complètement décimé par un incendie. Mais quelques années plus tard, on remonte l'endroit en question, eh bien, la forêt recommence à restituer. Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de la résurrection. Ça, la forêt semble être complètement morte, mais non, mais aujourd'hui, la nature est en train de renaître. C'est la résurrection. Vous pensez que c'est mort, ce n'est pas mort du tout. On peut se lamenter sur ce qui se passe à Los Angeles, mais la nature va reprendre ses droits. Parce que Dieu est un Dieu de restauration. D'ailleurs, il est bien dit, il n'y a pas de meilleur engrais que la cendre elle-même. Pour ceux qui font du jardinage, ils savent que l'engrais, quand vous faites un barbecue, ne jetez pas la cendre. Mettez ça dans votre potager et vous allez voir combien vous allez avoir de bons fruits. Donc, que Dieu C'est encore David. David dit, dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ne les oubliez pas. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Certainement, l'Éternel lui a montré ses vertus, ses qualités de médecin, de vétérinaire aussi, avec ses brebis. Quand ses brebis tombaient malades, Dieu guérissait les brebis. Amen. Il sait que l'Éternel guérit. Il n'était pas médecin, David. Comment peut-il parler de ces maladies qui guérissent? C'est qu'il a expérimenté cela. Il a expérimenté, voyant son troupeau dans ses brebis tombaient malades les unes après les autres, voyant aussi comment Dieu pouvait les remettre sur pied. Vous aussi, là où vous êtes, autour de vous, regardez combien Dieu peut vous redresser. Et il dit, il pardonne toutes tes iniquités. Oh, David sait ce que Dieu lui a pardonné. Il sait très bien ce que Dieu lui a pardonné. Psaume 51. Dit, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. » Il connaissait la grande miséricorde de Dieu. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Il sait ce que c'est. Mais Dieu lui en a pardonné. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Amen. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Quand David dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel parce qu'il pardonne toutes mes iniquités, il sait de quoi il parle. Il sait que Dieu est riche en miséricorde. Amen. Et c'est à cela que nous voulons en arriver. Voir. Réaliser combien Dieu a de multiples qualités et tous nos besoins, amen, Dieu les rencontre. Il reste Jéhovah Jireh. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Vous avez besoin de protection? Dieu vous protégera. Il protège vos brebis. Vous savez, avec les nouvelles technologies et l'insécurité grandissante dans le monde, où les enfants souvent sont risquent d'être enlevés. On enlève des enfants facilement aujourd'hui. Il y en a une qu'on a enlevée il n'y a pas longtemps du côté de Tournai là-bas par un sans-abri et on a retrouvé la petite. Aujourd'hui les parents, pour protéger leurs enfants, ils mettent dans leur téléphone, ils mettent des applications qui font que, une fois que l'enfant a disparu, on peut le retrouver quelque part. Mais un chrétien n'a pas besoin de ces applications. Un vrai chrétien n'en a pas besoin. Mais encore faut-il avoir la foi en Dieu. Que Dieu est protecteur. Que c'est Dieu qui protège votre enfant. Et quand ils prennent votre enfant, quand quelqu'un vient enlever votre enfant, il est plus que capable de le faire libérer, cet enfant, sans problème. Et il n'a pas besoin à ce que la police le trouve. Dieu va lui parler à ce monsieur. Dieu peut lui parler. Il y a un ami, j'ai déjà raconté ça, je vais vous raconter. Il avait terminé ses études, il s'est allumé, et c'était un Ivoirien. Et il voulait rentrer. Il s'apprêtait à rentrer, il a acheté ses équipements pour rentrer, qu'il devait faire embarquer dans un bateau et puis partir. Et à l'époque, quand je venais de perdre mes papiers, je l'ai rencontré, c'est pas chez un avocat. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, non, je suis chez un avocat parce que j'ai aidé quelqu'un, une jeune fille congolaise, qui lui avait demandé de l'aider puisqu'elle ne trouvait pas un endroit où habiter. Elle, comme lui vivait chez sa copine, il lui a cédé son studio. Il a dit, en attendant que tu trouves ton studio, un endroit où habiter, voici les clés, tu peux rester chez moi. Et lui, il était là-bas chez sa copine. Et comme il n'allait jamais là-bas, la fille, finalement, je ne sais pas, elle a trouvé un endroit où aller ailleurs avec quelqu'un. Elle a pris tout ce dont il avait acheté pour s'équiper. Elle a déménagé avec ça. Alors, il voulait la retrouver. Bon, il l'a retrouvée, mais la fille ne voulait pas lui remettre ces choses-là. Maintenant, il ne savait pas prouver que c'était à lui. Il était parti trouver un avocat pour... C'était une dame, une avocate pour cela. Alors, moi, je lui ai dit, mais viens à l'assemblée. Les frères vont prier pour toi.
Amen.
Il m'a regardé, il m'a dit, bon, je viendrai. Mais lui, il était venu avec l'idée, comme c'était notre compatriote à nous, une Zaïroise à l'époque, notre compatriote à nous, nous, on allait convaincre la compatriote en question. On ne la connaissait pas. Il est venu à l'assemblée. Le frère Roger Godefroy l'a accueilli. Il a prié et puis on lui a raconté le problème. Ce soir-là, c'était une réunion de prière, en fait. Ce n'était pas une réunion de prédication comme ça. L'assemblée a prié comme... En tout cas, c'était une des rares fois que j'ai entendu l'Assemblée prier comme ça. Il y a des gens qui étaient là, qui sont toujours ici. On a prié à l'Assemblée. Il y avait frère Pépin aussi qui était là. Oui. On a prié de tout notre cœur. Et puis, il est parti. Avant de partir, il y avait un autre frère qui était venu, un autre monsieur qui était venu, qui était nouveau aussi. C'était la première fois qu'il était venu. Et en rentrant, ils sont rentrés un peu deux ensemble, les deux nouveaux là. Alors l'autre dit, mais moi je suis venu pour leur demander d'aller convaincre leur frère, votre sœur, et voilà, vous priez. C'était un mercredi. Le vendredi, je vais à l'assemblée. Et on arrive à la cage aux ours, là. Je le rencontre. Il venait de descendre d'un tram avant. Et il me regarde. Il me dit... Il rentre. On entre dans l'immeuble, dans la salle d'attente avant de descendre, puisque le culte se faisait en bas. Il s'assied dans un fauteuil, là. Il me regarde. Il me dit, je commence à y croire. Et je commence à y croire. Alors, il est venu. Le frère Roger a prêché un peu. Et puis, le frère Roger qui dit, notre frère là, vous allez voir, il va retrouver ses affaires. Alors lui, il dit, mais je les ai retrouvées. Alors tout le monde a crié, gloire à Dieu. Ah, mais viens. Il est venu devant, il a témoigné. Il a dit, mais la fille est venue ayant peur. Elle avait peur, elle tremblait.
Amen. Ouais.
Elle tremblait. Oh. Demandez à frère Pépin si lui il saura bien raconter ça. Et il vous racontera. Je dis, elle tremblait. Et elle avait peur. Donc Dieu lui a parlé. Elle a récupéré toutes ses affaires. Dieu est Dieu. C'est là où David, il ne craignait aucun mal. Il ne craignait même pas les voleurs non plus, les voleurs de troupeaux. Si quelqu'un venait à lui voler le troupeau, Dieu allait lui parler. Vous savez, Dieu a parlé à Abimélec. Hein. Or, ce n'était même pas la faute d'Abimélec, c'était la faute d'Abraham. C'est Abraham qui a dit que c'est ma sœur. Ah, comme dit frère Abraham, le type, il prend son pyjama, à peine il veut le porter. Dieu lui dit, tu es un homme mort. Yes. Ouais. Alors, c'est le genre de situation que le frère David ici a vécu, qui lui a donné cette assurance-là. Il dit pas, l'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien jusqu'ici. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle du futur. Il dit, je suis certain, je ne manquerai de rien. Parce que ce Dieu-là est fidèle, il n'abandonne jamais les siens. Et il est tellement riche en miséricorde que lorsque le Seigneur raconte, on a lu cela, on vient de le lire, l'histoire de la centième brebis qui est perdue, il est tellement riche en miséricorde, il n'engueule pas la brebis. Il la prend, il la met sur l'épaule, commence par dire, tu vois, je t'ai déjà dit d'arrêter d'aller tournoyer. Non, il ne l'engueule, mais alors pas du tout. Il la prend, au contraire, il fait même une fête. Et lorsqu'un pécheur fait ça, Dieu ne vient pas l'engueuler, Dieu le prend, il y a de la joie dans les cieux. Il y a tellement de la joie dans les cieux que les gens chantent des cantiques. C'est gloire à Dieu. Amen. Le fils prodigue, c'est pareil. Il a demandé tout ce qu'il voulait. Il pensait que son père allait dire, voilà. Ça, son frère l'a dit. Son frère a dit, oui, il est parti, il a dépensé tout ton argent avec des prostituées, ainsi de suite. Et lui, tu fais une fête pour lui. Il dit, écoute, ton frère, il était mort. Aujourd'hui, il est vivant. Et c'est ce qui comptait pour son père. Et c'est ce qui compte pour Dieu. Et David, il savait que Dieu compte sur ça. Il compte sur le fait que nous lui fassions confiance. Si nous lui faisons confiance, il n'y a pas de doute là-dessus, n'est-ce pas? Il reste notre berger. Là où il nous conduit, c'est bon pour nous. Parfois, ça peut paraître rude, mais c'est bon pour nous. Ça nous forme. Il dit à Jacob, on va terminer par là. Il dit à Jacob, je t'ai créé, je t'ai formé. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. La vie de Jacob n'a pas été facile, mais cette difficulté-là était là pour le former. Et c'est cette formation qui a montré que Dieu reste Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tant que c'est lui qui nous conduit, tant que c'est lui notre berger, nous ne manquerons de rien. Et pour ce qui est de la lampe, c'est son travail qui... C'est le travail qui lui a été donné. Ça semble être le travail le plus méprisant de la famille. Tous ses frères, c'était des frères bien formés. N'est-ce pas? À tel point que Saül les a pris dans son armée. Hein, c'était des frères bien formés, bien entraînés. Lui, il était juste bon pour garder les troupeaux. Et comme il était... Mais là-bas, l'école royale militaire là-bas de l'époque n'a pas formé les frères de David au combat contre Goliath. Ils ont été formés contre... d'autres ennemis, bah, les Syriens, mais pas contre ce Philistin-là. Ils n'ont pas été formés pour ça. Par contre, David, là où il était, Dieu l'a formé ainsi. Oui. Donc, quand il gardait le troupeau, je suis sûr qu'il priait, « Seigneur, je ne te demande pas d'éloigner l'ours ou d'éloigner le lion, mais si tu permets que, l'ours ou le lion vienne, permets par ta grâce que je puisse avoir la victoire sur eux. » Nous ne demandons pas à Dieu d'enlever les obstacles. Nous ne demandons pas à Dieu de nettoyer la rue, le sentier devant nous. Non, mais nous lui demandons qu'il nous fasse grâce, que nous passions au travers. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est toi qui as créé Adam à ton image. Et c'est toi aussi qui l'as formé, la poussière de la terre. Et c'est aussi toi qui nous formes aujourd'hui. Passons par ton école, là où, par ton école de formation, par là où tu veux que nous passions, pour que nous puissions, oh Dieu, entreprendre cette marche en vainqueur partout où nous passons. Donc, quelles que soient les situations que nous rencontrerons, quels que soient les endroits par où nous devons passer, le sentier peut passer par la vallée de l'ombre de la mort, ça peut passer par des ravins, par toutes sortes de choses difficiles, mais que tu nous donnes la victoire en toutes choses. David n'a pas eu peur du lion. Il l'a poursuivi. Un autre pouvait se dire, c'est malheureux, le lion l'a pris, mais que puis-je contre un lion? Mais il n'a pas regardé à ses forces à lui. Oh, qu'allait-il dire à son père? Qu'allait-il donner comme rapport à son père? C'est pourquoi il a invoqué ton saint nom et tu l'as aidé. Plus tard, un ours est venu qui faisait peut-être deux fois sa taille. Mais là aussi, il a poursuivi et il a pu attraper l'ours par sa gueule. Oh, quand bien même l'ours s'était dressé et tué l'ours. Et il a reconnu que c'est par ta force que tu l'as aidé à terrasser le lion et l'ours. C'est aussi toi qui l'as aidé à terrasser ce Philistin orgueilleux, vantard, qui se présentait devant lui. Combien de Philistins vantards ne se présentent-ils pas devant nous alors que nous marchons? Mais nous ne craignons aucun mal, car c'est toi notre berger, c'est toi qui nous conduis. Les soucis nous accablent. Il nous est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. Oh, puissions-nous méditer ces paroles, Père, afin que nous ne marchions plus jamais avec des regards inquiets, mais que nous puissions tout simplement être confiant de ce que tu es avec nous. Te bénissons, bénissons ton saint nom. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour toutes choses. Nous te remettons notre chemin du retour entre tes mains. Toi qui as exaucé notre prière, ce jour-là, tu es le même encore aujourd'hui. Quelle que soit la forme de l'ennemi, nous n'avons aucune crainte. Quelle que soit la forme de ceux qui sont avec nous, nous te sommes reconnaissants pour cela. Oh Dieu, nous remettons tout à tes pieds. Nous remettons tout sous ton contrôle, ainsi que nous-mêmes, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.